Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme tous les jours par Perrine Suquet et Charlotte Méritant, et c'est Alexandre Cagzan qui est à la réalisation technique de notre émission que nous consacrons aujourd'hui. On en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. Un fait divers, une disparition mystérieuse qui dure pendant 10 jours, qui fait la une évidemment de l'actualité britannique. On est en décembre 1926. Évidemment, la personnalité de celle qui a disparu, Agatha Christie, explique que toute la presse du pays se soit mise à enquêter sur les raisons de cette mystérieuse disparition. Scotland Yard a mis le paquet aussi, bien sûr. Enfin, bref, il fallait absolument retrouver Agatha Christie et surtout essayer de comprendre, mais que s'était-il passé? Est-ce que c'était un kidnapping? Est-ce que c'était un coup de pub? Pourquoi on ne disait pas encore ça comme ça à l'époque? Bon, on va parler de tout ça avec mes invités, parce que ce qui est fascinant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, au bout de 10, 12 jours, voilà, elle réapparaît, Agatha Christie, parce qu'elle a été reconnue, sauf que elle dit qu'elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, parce qu'elle a opportunément perdu la mémoire. Bonjour Brigitte Carnel.
Bonjour Jacques.
Je suis ravi de vous retrouver ici au micro de RTL, parce que vous êtes écrivain, journaliste, et vous avez été longtemps présentatrice d'émissions de radio. Et vous avez consacré un roman à cette affaire. Vous avez intitulé ce roman Agatha Christie, le chapitre disparu. Ce livre paraît demain aux éditions Flammarion. J'en viens à vous dans un instant. Le temps de dire bonjour aussi à François Rivière.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et celle de Brigitte Carnel. Vous êtes François Rivière, écrivain, biographe, et parmi les biographies, évidemment, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Agatha Christie. Alors, ce qui nous a intéressé dans la confrontation, c'était justement de voir avec le biographe d'Agatha Christie les faits réels, ce qu'elle en a dit elle-même ou pas, et puis avec la romancière, comment elle a rempli finalement les blancs de cette histoire. Vous, François Rivière, vous aviez intitulé l'un de vos livres Agatha Christie, la romance du crime, un autre livre Agatha Christie, la duchesse de la mort. Là, on est dans une histoire évidemment que vous connaissez, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un caractère morbide à cette histoire au départ ?
Non, on peut pas dire qu'il y a un caractère morbide. Il y a surtout une vilaine farce, une vilaine chose que Agatha, dont le mari qui la trompait, aurait demandé le divorce, et qui avait une grande amie qui se prénommait Nan, qui elle-même venait de divorcer avec un autre méchant garçon. C'est une vilaine farce que Agatha a voulu jouer à son mari, tout simplement. D'ailleurs, c'est pas une disparition au départ, c'est une fugue. C'est devenu un événement national, mais au départ, c'est juste une chose un peu méchante, oui, qu'une femme délaissée, mal aimée et très amoureuse de son mari.
C'est pas méchant. En tant que femme, je vais vous dire, c'est pas méchant, c'est juste qu'elle a voulu lui faire un gros coup, elle a voulu lui faire peur, sans doute, et se venger de son mari adultère.
Oui, parce que la police a un temps soupçonné son mari de l'avoir peut-être
La police a tout imaginé, je parle sous le contrôle de François Rivière, mais la police a tout imaginé. On a imaginé un kidnapping, on a imaginé un assassinat, on a imaginé effectivement qu'elle se faisait un coup de pub, on a imaginé qu'elle s'était suicidée. Faut bien imaginer qu'à l'époque, Agatha Christie, elle n'était pas encore très très connue. Alors, elle commençait à être connue.
Oui. Elle venait de publier Le meurtre de Roger Ackroyd.
Oui, elle avait publié ce cinquième roman qui a fait couler de l'encre quand même, bien avant la fugue, dans lequel elle trichait avec les règles du roman policier classique, enfin d'énigmes, en faisant une chose que je dirais pas, bien sûr, dans le récit, mais elle n'était pas très très connue. Quoi. Elle écrivait beaucoup, elle avait publié ses 5 romans, elle n'arrêtait pas de publier des nouvelles, elle commençait à être connue, mais elle n'était pas célèbre du tout, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui.
Oui, mais pourtant, on est bien d'accord, Brigitte Carnel, la presse se jette quand même sur
la presse s'est jetée. Il faut imaginer à Londres, les crieurs de journaux, il faut imaginer qu'il y a eu des affiches quand même qui ont été placardées sur les murs de la ville pour la rechercher. Une récompense a été promise par par un quotidien, une battue de 15 000 hommes a été organisée spontanément quand même autour du lac de Silent Pool, où elle a donc foncé pour se suicider vraisemblablement, du moins l'imagine-t-on, et où elle s'est ratée. Mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est qu'en fait Agatha Christie, qui était reine de la possibilité de noyer les indices, de retrouver le criminel, chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose, finalement, badaboum, elle n'y arrivait pas. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup amusé
cette histoire vous a intéressé.
Et amusé beaucoup.
Et vous êtes allé vous amuser, si j'ose dire, sur place aussi.
Tout à fait.
À peu près à la même époque.
À quelques jours près, je suis partie avec une amie, on a loué une voiture et on a fait tout le chemin pendant 11 jours, en commençant par Londres. On n'est pas revenu à Londres après, puisqu'après elle revient à Londres. On est parti de Londres, on est passé par Silent Pool, où il n'est pas mentionné d'ailleurs que c'est cet étang-là qui a accueilli.
Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout.
Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'un étang, il y a deux étangs en forme de papillon. Ensuite, je suis allée évidemment visiter la maison à Greenway, que je conseille à tout le monde. C'est une visite.
C'était
magnifique.
La maison d'été de.
Voilà.
D'Agatha
tout
Christie.
Est là, les porcelaines, les collections de Cannes.
Et
je suis allée à Harrogate,
alors,
où j'ai séjourné dans le fameux hôtel où des jeux de rôle sont organisés d'ailleurs autour d'Agatha Christie.
Et alors cet hôtel, c'est le
Swan Hydropathic Hotel, de All Swan Hotel aujourd'hui.
Ouais. Voilà, parce qu'à l'époque, Fonsarrivière, on y faisait des traitements.
Ah, c'est un hôtel très célèbre, fréquenté par des gens très célèbres, même des princesses russes, des tas de célébrités fréquentaient cet hôtel où elle est allée parce que c'était un endroit où, comme il y avait beaucoup de monde, elle pensait pouvoir se dissimuler au mieux. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on a publié pendant des jours sa photo dans la presse, et personne ne l'a reconnue, enfin, jusqu'au moment où quelqu'un quand même s'est décidé à faire le lien. Mais elle voulait se soustraire au monde, quoi, en se trouvant, même si c'était toujours en Angleterre, elle n'a pas mis un océan entre elle et l'Angleterre, elle a quand même réussi, sur ce plan-là, elle a vraiment réussi son coup, se cacher vraiment dans la foule.
D'autant que dans la presse de l'époque, on a publié des portraits d'Agatha Christie avec une frange et des lunettes, avec un chapeau cloche. Enfin, toutes les possibilités d'images ont été données parce qu'elle adorait se déguiser. Du moins, l'a dit son mari. Et donc, on a dit est-ce qu'elle pourrait être comme ça, en intellectuelle, en bourgeoise, en midinette, toutes les formes de personnages. C'est complètement fou quand même comme histoire.
Alors, on va faire une première pause. Après, on va reprendre les choses, les faits, dans la chronologie. En commençant par ce vendredi soir où elle quitte son domicile, elle y laisse quand même sa fille, donc une femme qui part comme ça en voiture, dont on va retrouver la voiture autour d'un endroit, pas loin d'un endroit quand même assez sinistre. D'ailleurs, vous dites dans les remerciements à la fin de votre livre, Brigitte Carnel, à Silent Pool, je n'ai personne à remercier parce que de toute façon, il n'y avait personne. Donc on va revenir là-dessus ensemble et avec François Rivière, bien sûr, et on va essayer de vous raconter comment cette histoire, vraiment, tous les ressorts de cette histoire quand même extraordinaire.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Brigitte Carnel, écrivain, journaliste et auteur d'un roman qui paraît demain aux éditions Flammarion, Agatha Christie, le chapitre disparu. On va vous donner un petit mot d'explication dans un instant. Et puis François Rivière, écrivain, biographe, auteur de plusieurs ouvrages sur Agatha Christie. Alors oui, Brigitte Carnel, le chapitre disparu, c'est parce que c'est comme ça que commence votre livre. C'est Agatha Christie qui parle, la première personne. Elle vient de terminer ses mémoires et de les envoyer à son éditeur. Et il manque un chapitre.
Voilà. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est quand j'ai lu l'autobiographie d'Agatha Christie, donc son autobiographie, septième partie, entre le chapitre 5 et 6, c'est très très étrange, elle ne dit rien de sa disparition. C'est-à-dire que dans le 5, elle finit en disant « voilà, ça n'allait pas avec mon mari, grosso modo ». Et au chapitre suivant, « je suis partie aux Canaries avec ma fille Rosaline et avec ma secrétaire ». Donc effectivement, là, pour une romancière, c'est extrêmement tentant de se dire « je vais écrire le chapitre qui manque ». C'est comme ça que ça a commencé,
d'où le titre du livre. Alors, un mot, François Rivière, sur la situation d'Agatha Christie en ce mois de décembre 1926. Donc on l'a dit, une romancière dont on commence à parler, mais qui n'est pas non plus une icône encore, ni de la presse, ni de l'édition. Un mari, alors Archibald Christie, c'est qui est cet homme? C'est un ancien aviateur?
c'est un garçon qui a été pilote de la du Royal Flying Corps, mmh. c'était l'ancêtre de la RAF, oui. pendant la guerre de 14, qui en est rentré bien esquinté psychiquement, comme beaucoup de ces jeunes gens qui avaient combattu héroïquement quand même. Mmh. Il a eu du mal à se réinsérer, si on peut dire, dans la vie active. Il n'aurait pas trouvé de travail, il en a quand même trouvé un. Il a même trouvé une maîtresse, du coup, dans son
travail.
Dans le bureau. Oui.
Tout de suite, la
compagnie d'assurance où il travaillait à Londres. Oui. Et surtout, il s'était marié juste en 1914, juste avant que Archibald parte. Et à partir de 1920, la vie d'Agatha Christie a changé complètement. C'est-à-dire que son premier roman a été accepté, puis elle s'est mise à écrire comme une dératée, des nouvelles, des romans. Enfin, et Archibald a retrouvé une femme qui pensait plus à son travail, qui s'occupait à peine de leur fille.
Alors justement,
Et du coup, ça a créé un gros malaise hein, entre les deux. Et ça s'est très mal terminé, puisque Archibald a demandé le divorce. Et le fameux week-end où Agatha a pris sa voiture pour partir, il était lui-même en week-end chez sa maîtresse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est méchant, parce que quand même, c'est pas gentil. Quoi.
Et pas loin, Brigitte Kearney était en week-end, et pas loin de Silent Pool.
Tout à fait, à quelques miles. Ouais. Donc effectivement, pour la police, le fameux surintendant Ken Ward, les questions se posaient. Ouais. Quoi. Il était dans le coin, qu'est-ce qui pouvait se passer? Je ne pense pas que ça a été très loin, l'histoire de peut-il avoir assassiné sa femme, mais ça a été une toute petite chose qui a été forcément évoquée. On a plus pensé à son suicide quand même au départ.
Alors,
Elle était dépressive à ce moment-là.
Si on reprend la chronologie, donc vendredi 3 décembre 26, ce soir-là, Agatha Christie annonce à sa secrétaire qu'elle va faire un tour en voiture. Hein, elle n'en dit pas plus, elle lui dit de s'occuper de sa petite fille. Et puis les heures passent. Et le lendemain matin,
une domestique la voit partir vers 22h30.
Ouais.
Les voitures, enfin, il peut imaginer, hein, c'est une scène.
Elle a une Austin Morris, évidemment.
Elle a une Morris collée, c'est ça, hein, qui est une voiture très chic à l'époque. Ouais. Et elle part comme ça. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il y a quand même un énorme laps de temps qui se passe entre le moment où elle disparaît et le moment où elle arrive à Silent Pool. Donc, un homme a dit l'avoir dépannée.
Alors, oui, n'allez pas trop vite. Simplement, ce que je voulais dire, le lendemain, c'est la secrétaire va découvrir que sa patronne n'est pas rentrée et il y a une valise et quelques affaires personnelles qui ont disparu. Alors maintenant, c'est où Silent Pool, François Rivière? C'est loin de Londres?
Silent Pool, oui, c'est dans le Berkshire. C'est pas très très loin de Sunningdale, la ville dortoir peu où vivaient les Christie.
Oui.
Tout ça, c'est dans le même territoire. Mais ce qui est intéressant, peut-être déjà de dire, c'est que justement, ça se trouve pas loin d'une petite gare qui permet à ceux qui le veulent de prendre un train pour Londres, un train de nuit. Il y a beaucoup de trains toujours. Il y a toujours beaucoup de trains en Angleterre. Il y avait un train de nuit parce que ça faisait partie du plan. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais du plan, de ce qui s'est vraiment passé, parce que maintenant c'est plus un mystère.
Hein. Non, mais ça vous nous direz tout à l'heure ce qui n'est plus un mystère.
Mais effectivement, tout ça c'est dans le même périmètre, si on peut dire. Quoi. Surtout qu'on n'allait pas vite en voiture.
Oui.
Je précise même que Agatha Christie conduisait sans permis de conduire. Donc,
je vérifie, la gare existe vraiment. Effectivement, j'ai vu tous les endroits en me disant pour voir ce qui était un peu fou.
Alors vous dites que il se passe un certain temps. Elle a mis elle a dû s'arrêter quelque part. Elle n'est pas allée directement à Silent Pool.
Oui, elle a dû avoir une panne. Sa voiture a dû être tombée en panne et un homme a témoigné avoir dépanné.
D'accord, ça c'est des policiers en faisant leur enquête
qui ont vu ça. Maintenant, est-ce que l'homme a confondu avec une autre femme ou pas?
Il a raconté ça.
Ça reste un mystère.
Les éléments, les indices qu'on va découvrir sur place à Silent Pool, donc c'est quelqu'un qui découvre la voiture. Ça commence comme ça. Et dans la voiture, il y a des effets personnels, il y a des documents d'identité.
Tout à fait, il y a son manteau de fourrure et il y a son sac à main.
Oui.
Et il existe des photos d'ailleurs qui figurent dans l'excellent livre de François Rivière qui parut à Martinière. On voit cette voiture contre un arbre et des buissons derrière.
Qui a été retrouvée le lendemain par un jeune gitan qui s'appelait George Bess, qui a retrouvé la voiture, qui a prévenu la police.
Voilà, mais la voiture, elle n'est pas accidentée.
Non, la voiture avait le nez, puisque on l'appelait Apple Nose, un espèce de grosse calandre enfoncée dans des buissons.
Ouais.
Et les phares étaient encore, un peu en service. Donc, la voiture n'était pas là depuis. Elle n'avait pas eu un accident, en fait. Elle avait abandonné volontairement sa voiture.
D'accord. Et à quel moment, Brigitte Kearney, on va trouver dans une cabane de pêcheurs un autre élément très personnel qui va laisser craindre le pire, c'est-à-dire
juste après,
le suicide.
Des fouilles sont organisées, évidemment, tout autour de Silent Pool. Silent Pool, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas un endroit agréable du tout, surtout en hiver. Hein. C'est vraiment... l'eau est très, très opaque, il y a de la boue partout, il y a des espèces de choses comme ça, de feuilles étranges qui flottent. Et on peut penser qu'effectivement, elle a pu même courir et tomber, pourquoi pas dans le... Dans le lac, et puis, dans l'étang plutôt. Oui. Et puis évidemment, tout étant fouillé autour, on va retrouver des petits objets.
Alors on retrouve le poudrier de sa mère. Alors il faut dire que, au moment où elle disparaît, en fait, elle vient de perdre sa mère. Et sa mère était quand même un personnage très important pour
elle. Très, très importante pour elle. Sa mère, adepte de spiritisme, comme Agatha Christie, c'est des choses qu'on ne sait pas beaucoup, ça. Oui. Et est morte, oui, et Agatha Christie ne s'en remet pas du tout, quoi. Elle est dans un état psychique assez déplorable. Donc le fait que son mari, en plus, lui annonce qu'il va divorcer avec cette femme, qui a quand même... 10 ans de moins que lui, qui est sa dactylo. Enfin, c'est quand même pas facile pour cette femme qui commence à se sentir un peu ronde, qui n'est pas très sûre d'elle physiquement.
Mm-hmm. Mais les policiers vont découvrir que Agatha Christie a été mise au courant par son mari de sa liaison juste avant de disparaître dans les heures qui ont précédé.
C'est ce qui a été révélé.
C'est l'enquête qui leur apporte ça.
Oui, parce que le colonel Christie a quand même fini par parler. Une fois qu'il a compris qu'on n'allait pas l'accuser d'avoir tué sa femme, il a été obligé d'avouer un peu ce qui se passait dans leur vie intime. Et du coup, oui, je pense qu'on imagine que
les domestiques avaient entendu aussi, les
avaient
entendus
discuter. Oui, les domestiques entendaient les querelles. Et un jour, il paraît qu'Agatha a balancé une théière à la tête de son mari. Ça n'allait vraiment pas du tout, quoi.
D'accord. Donc voilà exactement.
C'était une femme amoureuse en fait, oui. Jacques Pradel. Hein,
c'est tout. Je ne mène pas d'enquête de moralité là. On ne prend pas position. Simplement, après Silent Pool, après avoir retrouvé cette voiture, on est dans le bleu total. C'est-à-dire que les investigations continuent. Il y a ces 15 000 personnes sur le terrain. Il y a des annonces qui sont faites dans la presse. On offre 100 livres, qui est une somme considérable quand même à l'époque, de récompenses. Et rien ne vient, quoi, en fait.
Des échos, voilà. Oui. On l'a vu à Londres, on l'a vu habillé en homme, on l'a vu chez Harrods.
D'accord.
Voilà, c'est des choses comme ça qui ressortent. Mais maintenant, ce sont des témoignages qui ne sont pas avérés, tout ça.
Voilà, donc il fallait replanter le décor. Maintenant, on va faire une pause. Pendant cette pause, on va combler le vide, ces 12 jours d'interrogation. Et on va vous raconter, évidemment, le coup de théâtre à la Agatha Christie. On va vous raconter comment ça s'est déroulé.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Agatha Christie, le chapitre disparu, c'est le titre du roman de Brigitte Kernel qui paraît demain aux éditions Flammarion. Brigitte Kernel, écrivain, journaliste, romancière, donc s'est emparée de cette histoire vraie, l'histoire de cette réelle disparition pendant quelques jours d'Agatha Christie en décembre 26 pour bâtir une histoire. On va dire ce qu'on peut quand même dire à vos lecteurs dans un petit instant, parce que vous avez mis de la cohérence, évidemment. Vous avez rempli les vides.
J'ai essayé.
Et vous êtes dit, on a une femme. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. François Rivière, à qui j'avais demandé de venir aussi, parce que c'est un petit peu notre juge de... Vous êtes un peu notre juge de paix, quoi, finalement.
Notre accompagnateur, on va dire.
Oui, mais non, mais vous connaissez... quelle est la place que les biographes donnent à cet épisode dans la carrière d'Agatha Christie?
Une place essentielle. Parce que si on parle de ce qui s'est passé après, on comprend l'influence que ça a eu sur la suite, non seulement de la vie, mais de la carrière d'Agatha Christie.
Justement. D'accord.
Elle est vraiment devenue célèbre à cause de ça, on ne peut pas dire autrement.
D'accord.
Enfin, pas uniquement à cause de ça, dans le sens où il fallait qu'elle écrive des livres extraordinaires
comme
elle l'a fait, mais c'était un espèce de coup de pouce. Parce que même si ce n'était pas un coup de pub, même si on l'a prétendu, l'éditeur était au courant, etc. Mais ça, c'est peut-être aussi des ragots de méchants de l'époque. Mais ça a été décisif.
Il y a un avant et un après cette disparition.
Ça a décollé. Après, elle a vraiment beaucoup vendu.
Je trouve qu'elle est devenue vraiment mystérieuse à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'évidemment, elle ne voulait plus voir un journaliste ni de près ni de loin. Oui. Et ça la rendait beaucoup plus attractive.
Et elle n'a jamais, j'imagine qu'elle a été traquée par la suite par des tas de gens qui voulaient savoir la vérité sur ce qui s'était passé. Comment elle répondait aux questions qu'on lui posait? Elle ne répondait
pas. Elle a dit, nous a-t-on dit. Elle a dit avoir dicté ce chapitre à sa secrétaire, la fameuse Carlo, sur un appareil enregistreur, et la bande était inaudible. Mais voilà, alors... Oui.
Mais elle l'a dit, ça. Oui, elle a dit, oui. J'ai raconté, mais comme... Bon.
Voilà, c'était inaudible, oui. Et puis j'ai des trous de mémoire, vous savez, voilà. Elle avait vraiment des trous de mémoire, mais elle n'était pas amnésique, ça.
Alors, on va parler justement de ce moment où deux musiciens d'un orchestre de jazz, hein, je crois, qui jouent dans ce fameux Swan Hydropathic Hotel, où viennent les personnes de la bonne société pour perdre quelques kilos.
Pour faire des cures. Ça existe toujours, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est très, très beau. À Rogat, c'est une ville magnifique que je conseille à tout le monde. Une des plus belles villes que j'ai vues dans ma vie. C'est magnifique.
On imagine, on est en 26, c'est peut-être un peu suranné, on boit le thé, tout ça.
On joue au billard.
Des cocktails le soir. Bon, et puis, il y a cet orchestre de jazz. Et là, deux des musiciens de cet orchestre vont aller, François Rivière, au commissariat d'Harrogate pour dire mais la femme dont on parle tous les jours dans les journaux, Agatha Christie, elle est là.
Oui, ils l'ont reconnue, ce qui était, semble-t-il, pas quand même un exploit. Ils l'ont reconnue sur les photos que les journaux publiaient le matin, l'après-midi et le soir. Parce qu'en Angleterre, il y avait déjà des journaux qui paraissaient très souvent dans la journée. Oui. Et ils ont prévenu. Mais c'est vrai que c'est très étrange, cette histoire de cette femme que personne ne reconnaît. D'autant qu'elle n'était pas du tout... C'était pas une sauvage qui restait toute la journée dans sa chambre. Elle participait vraiment, elle prenait le thé avec des dames. Oui. Elle dansait même au son de l'orchestre en question. Donc ces deux musiciens n'ont pas eu tellement de mal, au fond. À la reconnaître.
Mais, pourquoi, mais ça a mis quand même autant de jours.
Pourquoi ça a mis autant de jours alors,
Parce qu'on ne devait pas imaginer qu'elle puisse atterrir à Harrogate, tout simplement. Quand on a les cheveux sous le nez, parfois on ne les voit pas et ça doit être seulement quelque chose comme ça, parce qu'elle n'avait pas de complice, personne pour l'aider à Harrogate.
Alors vous, en revanche, votre roman, vous le bâtissez sur le fait qu'il y a une volonté de disparaître, que c'est une femme blessée qui se venge d'une certaine manière de ce que son mari lui fait subir. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que quand la police va vérifier si cette femme est bien Madame Agatha Christie, on demande à l'hôtel sous quel nom elle est enregistrée.
Elle s'appelle Madame Neal, Madame Teresa Neal. Donc elle n'a pas pris le prénom, mais elle a pris le nom de la maîtresse du mari.
Le nom de la maîtresse de son mari.
Très fort quand même, puisque le mari ne voulait pas que le nom de sa maîtresse apparaisse dans les journaux.
Ouais.
Vous imaginez.
Une réussite totale. Là.
Messieurs, ne trompez pas vos femmes, parce qu'on va toutes faire la même chose. C'est horrible.
Alors, elle est arrivée là, vraisemblablement, parce que vous laissez entendre quand même que justement, elle a ce talent de déguisement, etc. Vous dites que dans la réalité, elle n'a pas fait spécialement attention à se dissimuler ou à changer d'apparence.
Elle a certainement un petit peu fait attention, mais non, effectivement, comme dit François Rivière, elle parlait avec tout le monde, elle allait voir la salle de billard, elle se baladait dans Harrogate, elle allait à la bibliothèque, elle est allée voir la cure, elle ne se dissimulait pas. C'est très étrange parce qu'on a l'impression, en fait, que c'était une femme qui, peut-être, à Harrogate, à un moment, s'est dit « Tiens, on va me retrouver et mon mari, eh bien, il va être piégé dans cette histoire. » Seulement, quand il est arrivé à Harrogate, elle lui a fait la scène... La scène maximale, quoi. Non, je te reconnais pas, je suis amnésique, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur Archibald de Christie, et je m'appelle Madame Neal, qui habite en Afrique du Sud. C'est ce qu'elle a raconté, qu'elle venait d'Afrique du Sud.
Alors, c'est François Rivière, l'inspecteur chef Kenward de Scotland Yard, qui mène toute l'enquête. C'est lui qui vient sur place avec Archibald Christie.
Oui, enfin, je ne sais plus très bien, mais effectivement, le pauvre Kenward, il a eu du mal à s'y retrouver. Il a organisé les battues, on a fait venir plein de gens. Finalement, il s'est rien passé parce qu'on n'avait pas du tout de possibilité.
Il avait longtemps pensé qu'elle était morte,
il a pensé qu'elle était morte. Il n'y avait pas de carte, on prenait pas d'argent dans un distributeur qui vous permettait d'argent à Harrogate avec une carte de banque. Oui. Et du coup, il a fallu qu'on la découvre enfin dans cet hôtel. Mais je pense justement qu'elle a tout fait pour qu'on la reconnaisse dans le sens où plus la plaisanterie. Elle durera peut-être moins longtemps parce que quand elle a vu l'ampleur que ça prenait, parce que quand même il y a ce phénomène de la presse, ce qu'on dit, les gens qui ont un peu enquêté, enfin qui ont une vision des choses un peu assez précise, disent que c'est comme par hasard, c'était un week-end quand elle a disparu où il ne s'était pas passé grand-chose. Et dans les jours qui ont suivi, il n'y avait pas de choses effroyables qui se passaient dans le monde.
Parce
que même la presse américaine en a parlé. C'est quand même assez incroyable qu'une jeune romancière qui disparaît. La seule chose qui fait que, justement, ça crée une espèce d'intérêt, de susciter un intérêt un peu pernicieux comme ça, c'est dans l'esprit même des lecteurs, des journaux, c'est que c'était quelqu'un qui écrivait des romans policiers.
Eh ben oui, donc on se dit, elle s'est mise en scène elle-même.
C'était encore jamais arrivé.
Et puis, les journaux étaient dans une guerre froide à l'époque. Oui, il y avait des tirages avaient baissé. Enfin, donc il fallait un peu remonter aussi les ventes de journaux. Donc tout le monde s'en est donné à cœur joie.
Oui, et puis un journaliste qui est devenu fameux plutôt, qui s'appelait Richie Calder, dont le rôle est tenu par Dustin Hoffman dans un film qui a été fait en 79,
sur l'affaire,
qui s'est fait un nom lui en couvrant l'événement. Et je sais pas si c'est vrai, mais en compte qu'il est arrivé lui à Harrogate assez vite. Il a essayé de l'interviewer, évidemment elle l'a envoyé promener, enfin, mais ça devenait une affaire colossale sur le plan médiatique, et du coup elle avait peut-être envie que ça s'arrête, quoi.
D'ailleurs, elle avait surtout envie peut-être de retrouver son mari parce qu'elle l'aimait. Là, c'est le côté sentimental qui revient. Mais peut-être qu'elle voulait le retrouver. Et surtout, il allait peut-être lui dire « Mon amour, je t'aime, je te retrouve, je te demande pardon et je quitte Nancy Neal. »
Peut-être ce qu'elle espérait. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité. On en parle dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, cet étrange fait divers du mois de décembre 1926, la disparition d'Agatha Christie pendant 12 jours. Et puis on retrouve cette femme qui, officiellement, qui s'est quand même inscrit sur un registre d'hôtel sous le nom de famille de la maîtresse de son mari, et qui va dire, lorsque Archibald Christie débarque au Swan Hydropathic Hotel, mais maintenant la plaisanterie est assez dure. Quoi.
Oui,
elle dit, mais qui êtes-vous, monsieur? Moi, je m'appelle Mrs. Neal et je suis originaire d'Afrique du Sud. Ce qu'elle avait dit aux gens de l'hôtel pendant ces 10 jours.
Elle était inscrite à la
jours.
Réception, oui, sous le nom de Mademoiselle Neal, originaire d'Afrique du Sud.
Voilà, quand on lui demandait d'où elle venait,
elle devait en parler, puisqu'elle discutait avec tout le monde à l'hôtel. Ouais.
Alors, maintenant, ça, on reviendra dans la réalité tout à l'heure, mais on revient là maintenant à votre roman. Vous, Brigitte Kernel, vous imaginez, et vous êtes peut-être pas loin de la réalité, que dans la première partie du voyage, c'est-à-dire là où on va retrouver cette voiture près de cet endroit quand même sinistre, la Silent Pool, elle a décidé de se suicider parce qu'elle a eu... D'abord, elle a perdu sa mère, elle est très mal, et en même temps, elle apprend que son mari la trompe et lui a dit qu'il lui demandait officiellement le divorce. Donc
je
là,
suis convaincue.
Vous pensez qu'elle veut mourir, quoi.
Oui, j'en suis convaincue. Et quand je suis allée à Greenway, là où est la maison de vacances d'Archibald et de Agatha Christie à l'époque, quand je suis allée à Greenway, j'ai rencontré des dames qui avaient 70, 75 ans et qui m'ont... Ça monte pour aller à la maison de Greenway. Il faisait froid, enfin, je n'étais pas très en forme. Et voilà une voiture électrique en plein hiver, comme dans un film qui s'arrête. Deux dames anglaises très drôles qui viennent devant moi et qui me disent « Est-ce que vous voulez que je vous emmène là-haut ?» Donc moi et mon ami, on monte dans la petite voiture électrique. Et là, je pose bien évidemment plein de questions. Elles me disent, le jardinier vient de prendre sa retraite. Alors, vous savez, vraiment, elle voulait se suicider. Elle était très, très malade. Et là, j'ai eu plein de potins, de bonnes femmes et tout. Mais en creusant un peu, quand même, tout ce qui se disait dans le village était toujours dans cette idée de, elle voulait mettre fin à ses jours. Et puis voilà, au dernier moment, elle a dû avoir peur ou elle a dû avoir un accident.
Cette fameuse panne qui l'a retardée.
Voilà,
vous avez pensé ça aussi, François Rivière, qu'elle avait décidé de se tuer au départ?
Moi, je ne sais pas du tout. Hein, je ne sais pas dans sa tête. Mais elle a écrit un roman quelques années après qui s'intitule « Portrait inachevé » dans lequel elle met en scène une femme, une jeune femme qui désespérée, qui veut se suicider. C'est un jeune peintre qui passe par là, un artiste peintre qui la sauve du désastre. On peut imaginer effectivement qu'à un moment... Oui, elle était désespérée dans la mesure où son mari, qu'elle aimait énormément, lui ne l'aimait plus. Bon, ça, c'est un cas... évident de suicide.
Mais pour vous, enfin, c'est comme ça que j'ai lu, Brigitte Kernel, cette partie-là de votre livre. Elle veut foncer avec sa voiture dans le lac.
Elle se rate, quoi.
Et elle se rate.
Agatha Christie, reine du crime, tout à coup, n'arrive
elle
pas.
Elle rate
son
scénario
suicide.
De son propre suicide. Et à partir de là, alors, est-ce qu'elle est aidée et par qui? Parce que vous, dans votre livre, il y a son amie intime qu'elle met dans le coup dès le début, et les deux femmes vont bâtir quand même toute cette histoire en espérant que ça fera le plus de mal possible.
Alors, ce qui a été dit,
Archibald.
Ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, elles avaient monté ce plan avant.
Oui.
Donc, Agatha Christie n'aurait pas eu envie, finalement, au dernier moment, de rentrer dans le plan de Nan, mais n'étant pas morte.
Nan, c'est le nom de...
C'est son amie. Donc, n'étant pas morte, se retrouvant désespérée comme ça à Silent Pool, elle prend donc un train à West London. Elle retourne à Londres se réfugier chez Nan.
Voilà, effectivement, et c'est là qu'elles bâtissent...
Et là, elles s'amusent. Hein, c'est quand même deux copines. Ouais. Donc, elles sont à la fois malheureuses par leur mari, par des histoires de tromperie, etc. Mais en même temps, bon, il y a une espèce de jeu entre elles qui est « et si on faisait ceci, et si on faisait cela ?» Si on le piégeait encore plus, après on va pas tout raconter, bien sûr. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ça, c'est cette histoire de femmes qui sont quand même, il faut le dire, dans un monde qui commence à devenir très très moderne, où effectivement il y a des grands magasins, où on parle d'homosexualité, où on parle beaucoup de divorce, où l'éducation des enfants est vue autrement. Ouais. Et c'est vrai que les mettre dans ce contexte-là permettait aussi de montrer qu'Agatha Christie n'était pas encore, en 1926, tout à fait encore ouverte, en tout cas au divorce.
Mais en même temps, vous collez à des parties de réalité. C'est-à-dire que ce témoignage de la panne de voiture est exact. Le témoignage de gens qui l'ont vu chez Harrods,
il a été donné
à Londres, ça a été dit.
Qu'on l'ait vu en homme également.
Et qu'on l'ait vu costumé en homme également. Et quand on arrive sur place, pourquoi elle est allée à Harrogate? Est-ce qu'on a une explication là-dessus?
Parce que c'était le plan avec la copine, Harrogate.
Oui, mais Harrogate, ça tombe de...
Je pense
pourquoi
que c'est un endroit.
Choisir cet endroit?
Parce que c'était l'endroit que son mari ne connaissait pas. Elle savait sans doute que son mari n'irait jamais à Harrogate. Ou, vous vous rendez compte, dans le nord de l'Angleterre, en plein hiver, je vous assure, quand j'y suis allée, c'est quand même pas ça. Quoi. La nuit tombe très tôt, il fait froid, même si Harrogate est une ville sublime. Venise, vous voyez, Venise sans l'eau, très très beau. Et je conseille à tout le monde d'aller visiter cette ville. C'était quand même pas l'endroit où on pensait retrouver Agatha Christie. On a raconté aussi qu'elle était partie au Touquet. On a raconté toutes sortes de choses. On disait qu'elle était à Londres aussi à un moment. Et surtout, on disait qu'elle était morte. Voilà.
Alors, une dernière pause dans l'émission. Et ensuite, on va se retrouver et parler de l'après. De l'après, cet événement quand même qui est devenu Agatha Christie, qui est devenu Archibald Christie, parce que ça ne s'est pas passé comme dans les romans. Hein. Il a persisté et signé. Et ils ne se sont pas réconciliés, figurez-vous.
L'heure du crime sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission consacrée à cet épisode très important dans la vie d'Agatha Christie, sa disparition pendant 12 jours en 1926. À cette occasion, on salue la sortie demain du roman de Brigitte Kernel, qui est mon invitée, écrivain journaliste, Agatha Christie, le chapitre disparu, où elle raconte avec beaucoup de talent, et je ne dis pas pour lui faire plaisir, mais c'est un livre vraiment qui se lit aussi bien qu'à Agatha Christie, et en plus on a un personnage absolument fabuleux, quoi, qui quelque part nous parle encore aujourd'hui. François Rivière est là aussi, écrivain et biographe, qui a écrit plusieurs ouvrages sur Agatha Christie, et c'est vers vous que je me tourne, François Rivière, maintenant, parce que disiez tout à l'heure, ça a été très important cette histoire-là, ça a vraiment changé la vie d'Agatha Christie, certainement son destin d'auteur, parce que on a tellement parlé d'elle. Alors, d'un mot, avec Archibald, ils vont pas se retrouver, donc ils vont divorcer très rapidement après.
Ils ont divorcé 2 ans après, oui, ce qui n'était pas surprenant, évidemment. À partir de là, Agatha a un peu infléchi le rythme de son écriture, parce qu'elle c'était une stacanovice hein, jusque-là. Elle a décidé de partir en voyage. Elle est partie au Moyen-Orient. Et là, elle a fait la rencontre
de son archéologue.
Jeune homme, parce qu'il avait 15 ans de moins qu'elle, Max Mallowan, qui était archéologue sur des sites de fouilles qui aujourd'hui n'existent plus pour toutes sortes de raisons. Elle est tombée amoureuse de lui. Je crois que ce qui lui plaisait aussi beaucoup, c'était le métier qu'exerçait Max, qui faisait au fond un peu avec les civilisations passées, ce qu'elle-même faisait quand Hercule Poirot reconstituait la vie des gens. Et d'ailleurs, elle est devenue son assistante hein, pendant des tas de saisons de fouilles pendant lesquelles elle n'écrivait plus ou très peu. Et donc, ils se sont mariés en 1930 et ils n'ont pas eu d'enfants. Elle a essayé. Hein, ils ont failli, si je puis dire. Lui a accepté lui qui était à moitié autrichien, moitié, si je puis dire, moitié anglais, moitié français, par sa mère, a changé de religion. pour se marier avec elle, parce qu'à l'époque, c'était pas facile, forcément. Et elle a connu une autre vie, en fait, après le divorce, même si, au fond, elle a peut-être jamais oublié Archibald. Si peu, d'ailleurs, que lorsque le pauvre Archibald, en 1960, est mort d'un cancer, elle a écrit une lettre de condoléances à Nancy, qu'Archibald avait épousée.
D'accord, oui. Alors, vous êtes allé pénétrer aussi un peu l'univers d'Agatha Christie. Vous parliez en micro de ses chiens. Elle était fantasque, comment on peut la définir?
Moi, elle m'a amusée beaucoup, Agatha Christie. Ouais. Il y a tout ce côté un peu de pathos, où elle est malheureuse, etc. Mais elle est quand même très drôle, elle est très amusante. Par exemple, quand on lit le fameux Loin de vous ce printemps, quand elle écrit... Point d'exclamation, elle a une façon de s'exprimer. Ouais. Et puis effectivement, elle était dingue de ses chiens, elle a des tombes, chaque chien a une tombe dans la propriété. Elle a plein de choses comme ça.
Passionnée de tables tournantes également.
Tout à fait par
parce
sa maman.
Dans l'affaire, ouais. on l'a dit très rapidement, mais on avait fait appel au médium aussi. Hein,
tout à fait.
Le médium avait dit qu'elle était vivante d'ailleurs.
Tout a été dit.
Contrairement à ce que pensait le type de Scotland Yard.
Oui, tout a été dit effectivement. Ouais. Sa mère était spirite, enfin pratiquement. Le spiritisme faisait tourner les tables, faisait parler les esprits, parce qu'elle pensait être des esprits, et surtout lisait, soi-disant, mais ça c'est Agatha qui le pensait, dans ses pensées. Donc elle pouvait regarder les gens et lire dans les pensées, ce qui était très impressionnant pour une gamine qui grandissait comme ça auprès de sa maman. Donc Agatha Christie a continué effectivement à s'adonner au spiritisme, sans on s'attend pas du tout à ce qu'elle fasse ce genre de choses. Elle était aussi très collectionneuse. Quand on va à Greenway à la maison, là, il y a des collections vraiment de tout et n'importe quoi, presque, de chapeaux, de plein de choses de cet acabit. Moi, je la trouve vraiment, et puis il y a un esprit dans Agatha Christie, elle est amusante, il y a quelque chose de drôle,
il n'y a jamais eu par la suite dans sa vie un épisode qui pouvait la rapprocher de ce qui s'était passé dans cette fameuse semaine, quoi.
Dans ses livres, on retrouve effectivement quelques éléments, où on voit une femme disparue.
Cette femme qui veut se suicider,
c'est ça. Cette fameuse femme dans Loin de vous ce printemps, effectivement, voilà.
Mais on n'en saura jamais plus. Vous y croyez, vous, François Rivière?
Dans ce cas, c'est qu'il y a des femmes trompées qui se vengent dans les romans.
Beaucoup, Jacques Pradel.
Oui,
dans la vie aussi.
Elle en parle quand même.
On va terminer avec un petit hommage à Agatha Christie, parce que j'imagine que c'est pas du tout un hasard, mais nous sommes aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de la mort d'Agatha Christie, qui est morte chez elle en Angleterre le 12 janvier 1976. Elle avait vendu 350 millions de livres dans le monde, et sur RTL, ce 12 janvier 1976, Jean-Pierre Tison signait le portrait d'Agatha Christie.
Comme dans ces ménages où les époux finissent par se ressembler, Agatha Christie, qui avait épousé très jeune le genre policier, avait l'air, à la fin de ses jours, d'une respectable criminelle enrichie par ses veuvages. Elle vivait dans de vastes manoirs, isolés. Avec ses cheveux soigneusement bouclés et argentés, son nez busqué, son menton altier et ses bonnes joues de grand-mère, Agatha Christie était une sorte de Victoria de l'assassinat. Miss Agatha Clarissa Miller, après un premier mariage avec le colonel Archibald Christie, aviateur volage, avait de nouveau convolé en 1928 avec un archéologue, évidemment avide, comme elle, de mystère, mais elle n'eut de passion véritable que pour Hercule Poirot. Craignant qu'il soit maltraité après sa mort, le sentant fatigué, elle l'avait d'ailleurs estourbi l'an passé. Cela s'appelle de l'euthanasie littéraire. Agatha considérait l'écriture avec le même calme que les travaux d'aiguille. Elle donnait un ouvrage par an et ses vieilles dentelles étaient bien sûr toujours saupoudrées d'arsenic. Le crime de l'Orient Express, les dix petits nègres, la souricière, jouaient sans interruption depuis 24 ans dans un théâtre londonien, et surtout le meurtre de Roger Ackroyd sont des tours de force contre lesquels le temps ne pourra rien. Traduite en 103 langues, vendue à 300 millions d'exemplaires, La Douairière concevait le roman policier comme un problème d'algèbre, bien propre, sans bavure sanglante, sans violence inutile. Elle était l'ultime représentante d'un monde où l'on persistait à considérer l'assassinat comme un des beaux-arts. Aujourd'hui, les artistes pullulent, mais leur travail est bâclé. Et la présence de cette reine de 85 ans était un de ces anachronismes auxquels les Anglais tiennent tant pour cacher leur moderne débordement.
Voilà, et eh bien, c'est sur ce portrait qu'on termine l'émission. Merci beaucoup, Brigitte Kernel, de nous avoir parlé de ce roman qui paraît demain, donc Agatha Christie, le chapitre disparu. Merci beaucoup, François Rivière. Je rappelle, Agatha Christie, la romance du crime aux éditions de La Martinière, et Agatha Christie, duchesse de la mort. Il me reste 10 secondes. Vous parliez de l'humour d'Agatha Christie. C'est vrai ce qu'elle disait après avoir rencontré son archéologue, en parlant aux jeunes femmes en disant il faut absolument épouser un archéologue.
Ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça pour elle. Elle était furieuse. En revanche, quand on lui demandait...
Il faut donner la fin de la phrase, quand même.
Oui, épouser un archéologue, plus vous vieillirez et plus il vous aimera. Oui, pardon, j'étais déjà parti de l'autre côté.
On lui a fait dire.
Ce qu'elle disait vraiment, ce qu'elle avait vraiment dit, c'est quand on lui demandait où trouvez-vous vos idées, elle disait chez Marx et Spencer.
Voilà, l'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant. Les infos, bien sûr, et puis ensuite votre rendez-vous avec Flavie.